Il est 16h, merci d'écouter CILS FM 107,9. On a 21 degrés actuellement à Victoria avec du soleil. C'est parti pour une nouvelle édition du Débrief, votre rendez-vous info quotidien. En interview aujourd'hui, je reçois notre chroniqueur Tim Dubroy, spécialiste de la scène musicale locale, qui nous parlera des sorties possibles en ce 14 juillet, fête nationale de la France. On mettra bien sûr l'accent sur le concert de Centennial Square, coproduit par la Société francophone de Victoria et l'organisme Eventide. Restez à l'écoute, ce sera vers 16h20. En attendant, on ouvre tout de suite avec les bulletins de notre collaborateur Denis Lépine. On enchaîne après, dans quelques minutes, avec la suite des infos. On apprend en dernière heure qu'un attentat a été perpétré en France, dans la région de Nice. On vous tiendra au courant des développements plus tard dans l'émission. Restez à l'écoute. Le débrief est rendu possible grâce au soutien du Fonds canadien de la radio communautaire.
Info Éducom national international, ici Denis Lépine. Bonjour, madame, messieurs. Le gouvernement canadien a fait le point sur le Salon international de l'aéronautique 2016. L'événement organisé à Farnborough au Royaume-Uni a vu des représentants d'entreprises canadiennes profiter de l'occasion pour faire valoir leur innovation et élargir leur réseau d'affaires. C'est du moins l'estimation faite par Innovation, Sciences et Développement économique Canada. La ministre des Services publics et de l'approvisionnement, Judy Foote, a dit que le gouvernement du Canada est résolu à soutenir les secteurs de l'aérospatial et de l'espace en raison du rôle clé qu'ils jouent au sein de l'économie canadienne. Selon Royal LePage, eh bien, le marché immobilier résidentiel canadien poursuit sa croissance. Le second trimestre de 2016 a vu la plus forte augmentation nationale d'une année à l'autre depuis 2011. La synthèse des prix des maisons de Royal LePage a montré que le prix d'une maison au Canada a augmenté de 9,2% entre 2015 et 2016 pour atteindre 520 223 $. De plus, Royal LePage prévoit que le prix médian d'une résidence au Canada connaîtra une hausse de 12,4% par rapport à 2015 d'ici la fin de 2016. Changement au règlement sur l'inspection des petits bateaux de pêche. Le nouveau règlement mettra à jour les exigences actuelles sur l'équipement de sécurité et la stabilité des bateaux. Il instaurera aussi des procédures d'exploitation sécuritaire à l'intention de l'équipage. Le changement a été publié dans la partie 2 de la Gazette du Canada. Les propriétaires de bateaux de pêche auront un an pour se familiariser avec les nouvelles exigences. Le nouveau règlement s'applique aux bateaux de pêche canadiens d'une longueur de plus de 24,4 mètres et d'une jauge brute de plus de 150 tonneaux. Stéphane Dion a conclu une visite officielle en Lettonie. Le ministre des Affaires étrangères a tenu des rencontres au Centre d'excellence en communication stratégique de l'OTAN et a été en mesure de discuter avec des membres du gouvernement. Stéphane Dion a dit que le Canada, tout comme ses alliés de l'OTAN, a exprimé d'égale manière son engagement à entretenir un dialogue ouvert et sa détermination à défendre chaque centimètre carré de l'Alliance. Assemblée générale annuelle de l'Assemblée des Premières Nations, signature d'un accord entre l'Assemblée des Premières Nations et la GRC. Le but est faire la promotion du renforcement des relations et la réconciliation entre les Premières Nations et leur corps policier. Chef national de l'Assemblée, bien Perry Bellegarde, a salué le commissaire Paulson pour sa volonté de travailler ensemble à accroître la sensibilité culturelle. L'Assemblée générale prend fin aujourd'hui. Avis aux abonnés de Twitter, sachez que le Service canadien du renseignement de sécurité a maintenant son propre compte. Le directeur du service, Michel Coulombe, a mentionné que le service reconnaît qu'une organisation moderne se doit de recourir à des moyens modernes pour communiquer. Il a dit aussi qu'il est primordial que le public comprenne le rôle que joue le service, et ce même s'il n'est pas toujours facile de parler publiquement de la nature du travail des employés, a rappelé Michel Coulombe. Ottawa vient de lancer un processus de consultation pour orienter l'élaboration d'un projet de loi. Selon le gouvernement Trudeau, le document changera la manière dont il traite les questions d'accessibilité. Les gens sont invités à prendre part au processus pan-canadien. Des tables rondes et des séances publiques commenceront en septembre dans plusieurs coins du pays. TransCanada et 5 associations et syndicats représentant les métiers de l'oléoduc tiendront une conférence de presse cet après-midi. Il sera question de la signature d'un protocole d'entente dans le dossier de l'oléoduc Énergie Est. L'entente signifie que des milliers d'emplois seront créés pendant la construction de l'oléoduc de 4500 km. La conférence de presse doit se dérouler à Ottawa. Au sport, au baseball majeur, les Blue Jays profitent d'une deuxième journée de congé aujourd'hui. Ils reprendront le calendrier régulier demain à Oakland. Au Tour de France, la 11e étape est allée au Slovaque Peter Sagan. Le maillot jaune est toujours détenu par l'Australien Chris Froome. 12e étape aujourd'hui entre Montpellier et Mont-Ventoux. Football canadien, Ottawa défait Toronto 30-20. Ce soir, Edmonton sera à Winnipeg. Et au hockey, bien, c'est confirmé. George McPhee a été nommé directeur général de la nouvelle concession de Las Vegas.
C'était les bulletins de notre collaborateur Denis Lépine. Évidemment, Denis nous a fourni ces bulletins un petit peu plus tôt aujourd'hui. C'était avant qu'on apprenne qu'un attentat est survenu à Nice, en France, aujourd'hui, il y a quelques heures. Donc, ça semble être confirmé. Un attentat qui est venu assombrir les festivités du 14 juillet, fête nationale de la France. Donc, on rapporte qu'un camion a foncé dans la foule réunie pour le 14 juillet sur la promenade des Anglais à Nice lors du feu d'artifice annuel organisé par la municipalité. La préfecture des Alpes-Maritimes a évoqué un attentat et demande aux habitants de rester à l'intérieur. Selon la mairie et des témoins présents sur place, plusieurs victimes sont à déplorer. Un bilan plus récent ferait état d'une soixantaine de morts. On y reviendra brièvement en fin d'émission. On va maintenant se tourner vers les nouvelles provinciales et nationales. La Cour suprême du Canada a déterminé que les employeurs devait avoir un motif valable pour congédier un employé sous réglementation fédérale non protégé par un syndicat. Dans sa décision rendue aujourd'hui jeudi, le plus haut tribunal du pays a indiqué que congédier un tel employé sans motif valable était injuste et par conséquent interdit en vertu du Code canadien du travail. Le Congrès du travail du Canada a applaudi la décision qu'il qualifie de victoire pour tous les employés sous réglementation fédérale. Particulièrement le 500 000 de travailleurs non syndiqués à l'emploi des banques, des secteurs des télécommunications et des transports et certains employés de sociétés d'État également. La Cour suprême a rendu une décision favorable à l'endroit de Joseph Wilson, qui avait été congédié sans motif par Énergie atomique du Canada en 2009. Il avait alors reçu une indemnité de départ. Un arbitre en ressources humaines a conclu qu'un employeur ne pouvait se servir d'indemnité de départ, aussi généreuse soit-elle, pour se soustraire à une décision relative à un congédiement en vertu du Code du travail. Autrement, plus près de chez nous, en Colombie-Britannique, la crise des surdoses de drogue se poursuit. Depuis le début de l'année, les surdoses sont en forte hausse. On en a parlé à quelques reprises dans le débrief. De nouvelles statistiques dévoilées par le coroner de la Colombie-Britannique indiquent que le nombre de surdoses causées par des drogues illicites a encore grimpé en juin. On dénombre 59 cas rapportés contre 43 au mois de mai. Au total, depuis janvier 2016, ce sont 371 surdoses qui ont été constatées, soit 74,2% de plus qu'au cours de la même période en 2015. Le coroner de la province note toutefois une très légère amélioration quant aux surdoses de fentanyl, passé de 46 en avril à 27 en mai. Depuis le début de l'année, 188 surdoses causées par le fentanyl ont eu lieu. Cette substance reste impliquée dans au moins 60% des cas. Le médecin en chef de la province de Colombie-Britannique, Perry Kendall, a déclaré l'état d'urgence en santé publique en avril dernier en réponse à cette crise des surdoses. En outre, depuis le 1er juillet, le Collège des médecins et chirurgiens de la Colombie-Britannique britannique a assoupli les règles concernant la prescription de Suboxone, une alternative encore peu utilisée à la méthadone et préférable à la méthadone, comme nous l'avait indiqué Céline Hodler, une spécialiste de la région Vancouver, dans l'émission Sport et Santé Magazine récemment. Donc, depuis 1er juillet, oui, le Suboxone est maintenant permis en prescription libre par les médecins. Et cela devrait permettre de contribuer à améliorer la situation. On parle à présent de Vancouver qui continue de se fixer des objectifs très ambitieux en matière environnementale. Vancouver se voit à l'horizon 2040 en tant que ville sans déchets. Vancouver se voit en tant que ville la plus verte au Canada actuellement, sous le leadership de son maire Greg Robertson. Alors c'est un ambitieux objectif concernant les déchets et elle a environ 24 ans pour le réaliser puisque c'est l'horizon 2040 qui est visé. Vancouver est indéniablement une des villes les plus vertes au pays grâce à de nombreuses initiatives visant à réduire l'empreinte écologique. On a récemment célébré un nouveau jalon avec la réduction de 23% des déchets solides envoyés au dépotoir depuis 2010. Pour souligner l'occasion, la ville s'est donné un nouvel objectif récemment, éliminer tous les déchets d'ici 2040. C'est en effet très ambitieux. Vous pouvez retrouver cette nouvelle un peu partout dans les médias. Actuellement, ça s'ajoute à une nouvelle dont on vous avait parlé cette semaine. On rapportait effectivement que la ville avait l'intention d'exiger de toutes les nouvelles constructions immobilières en horizon 2030 qu'elles soient zéro émission, donc zéro carbone pour 2030. Alors, beaucoup d'initiatives de la part de Vancouver dans le dossier environnemental, celle des déchets et la dernière en date. On va à présent parler des services de garde en Colombie-Britannique et de l'accès aux services de garde qui est parfois difficile pour les personnes à revenus modestes. Le manque de services de garde abordables viole le droit des femmes, dit un organisme. C'est un article qui est paru sur le portail de Radio-Canada. Les droits des femmes et des enfants sont violés de manière complexe et multiple en Colombie-Britannique à cause du manque de services de garde abordables et de qualité dans la province, selon l'organisme de défense des droits des femmes West Coast Leaf. L'auteur de cette étude s'est basé sur les témoignages de 15 femmes de divers groupes pour tirer ses conclusions. Notre intention, dit-elle, n'était pas de représenter l'histoire de toutes les femmes, mais plutôt d'essayer de parler d'un éventail varié de femmes et de voir l'impact sur leur vie, a indiqué Kendra Milne, qui est l'auteur de cette étude. Selon Kendra Milne, l'échantillon est petit, mais témoigne tout de même de vastes violations des droits de la personne. Son rapport recommande l'adoption d'un programme de garderie à $1 par jour, entre autres. La directrice générale de la Fédération des parents francophones de la Colombie-Britannique, Marie-Andrée Asselin, dit avoir rencontré pour sa part plusieurs mères qui ont dû choisir entre carrière et famille, justement à cause de ces frais de service de garde en grande partie. Elle a déclaré dans cet article de Radio-Canada, si l'on regarde dans la province, les frais de garde moyens sont de 800 à 1000 $ par mois par enfant. C'est astronomique comme somme, a-t-elle indiqué. Quand on a une famille avec plusieurs enfants, ça peut monter très vite au niveau des frais de garde, a-t-elle déclaré. Donc, selon Mme Asselin, la problématique touche encore plus les francophones en raison du manque de places en garderie en français dans la province. On parle maintenant des affaires judiciaires. L'agent de la GRC qui avait nié avoir actionné son pistolet à impulsion électrique Taser sur l'immigrant polonais Robert Dikanski a perdu sa cause en appel devant la Cour suprême de Colombie-Britannique. Alors, pour mémoire, Robert Dikanski est décédé suite à une arrestation aux mains d'une équipe de 4 agents de la GRC à l'aéroport de Vancouver en octobre 2007. Cette affaire, qui s'était soldée par le décès de la victime, avait fait beaucoup de bruit. et l'intervention des agents avait été filmée, ce qui avait permis de la faire connaître dans les médias. Alors, l'agent Kwesi Millington, qui est en cause ici, affirmait que le tribunal de première instance de Colombie-Britannique avait commis de nombreuses erreurs à son sujet avant de le trouver coupable de parjure en lien avec le décès de la victime, donc Robert Dikansky. Mais dans une décision unanime, la Cour suprême de Colombie-Britannique a rejeté tous les arguments de l'agent Millington. Des quatre agents en cause dans cette affaire, deux ont été acquittés, tandis que l'agent Benjamin Robinson, collègue de Millington, a lui aussi été condamné. L'agent Robinson, dont la demande d'appel est toujours en cours, donc elle est toujours en étude, avait reçu en première instance pour sa part une sentence d'un peu moins de 2 ans d'emprisonnement. Et quant à l'agent Millington, qui vient de voir sa demande d'appel rejetée, il recevra une sentence de 30 mois. Je vous le disais, on a 21 degrés actuellement sur Victoria, un ciel dégagé. Ça restera dégagé en soirée. Néanmoins, on a une petite probabilité d'averse de 30% qui sera présente au cours de la soirée. On va se tourner vers une pièce musicale signée par la formation The Thing. Ça s'intitule The Nail Will Burn. Et retenez bien le titre puisqu'il en sera question dans l'agenda culturel. Je m'entretiendrai avec Tim Dubroy, notre chroniqueur culturel, qui me parlera des sorties musicales ce soir, en ce 14 juillet. Donc, on écoute pour commencer The Nail Will Burn par la formation The Thing. À tout de suite. Gros son signé The Thing dans le débrief, une pièce qui s'intitule The Nail Will Burn. On va en parler dans quelques minutes avec Tim Dubroy, notre chroniqueur culturel. Mais auparavant, on va se pencher sur la nouvelle du jour. L'info se poursuit dans l'émission. On est ensemble jusqu'à 17h. On parle d'une sortie effectuée par Amnesty International au sujet de l'Égypte. Amnesty International qui dénonce une multiplication des disparitions forcées qui est sans précédent en Égypte. L'ONG appelle cette semaine la communauté internationale à faire pression sur les autorités égyptiennes afin que cessent les violations aux droits de l'homme. Le président égyptien Al-Sisi est régulièrement accusé par les organisations internationales des droits de l'homme d'avoir instauré un pouvoir ultra-répressif en Égypte depuis qu'il a destitué en 2013 son prédécesseur Mohamed Morsi. Les disparitions forcées sont devenues un des instruments clés de la politique d'État en Égypte, a déploré Amnesty International. Toute personne qui ose exprimer des critiques est en danger. C'est un rapport donc qui est tout récent et le rapport accuse le pouvoir politique en Égypte, bien sûr, d'avoir recours à des méthodes qui intimident les opposants et éliminent la contestation pacifique. Ce même rapport qui dénonce une multiplication des disparitions forcées sans précédent depuis le début de 2015 expose 17 cas individuels, 5 étant le fait de mineurs, donc les victimes, parmi les victimes de disparition, on dénombre des mineurs. Ces victimes ont été maintenues en détention au secret pour une période allant de plusieurs jours à plusieurs mois. Donc Amnesty International cite notamment le cas de Mazen Mohamed Abdallah, victime de très graves violences l'année dernière alors qu'il était âgé de 14 ans. Il y a d'autres cas qui sont cités dans cet article paru dans Jeune Afrique. Le rapport a été repris, lui, cité plutôt dans de nombreux médias internationaux, dont le journal Le Monde. Donc, les autorités égyptiennes nient avoir recours à la torture, reconnaissant seulement quelques incidents isolés. Et affirme que les responsables de ces incidents isolés, entre guillemets, sont traduits en justice, ce qui laisse très dubitatif les observateurs et bien sûr Amnesty International. L'ONG a déclaré mercredi la collusion, a dénoncé plutôt la collusion entre les forces de sécurité et les autorités judiciaires qui sont disposées à mentir pour couvrir leurs agissements et qui s'abstiennent d'enquêter sur les allégations de torture. La lutte contre le terrorisme sert de prétexte pour enlever, interroger et torturer les gens qui contestent la politique des autorités, a dénoncé Philip Luther, directeur d'Amnesty International pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Donc voilà pour la nouvelle du jour qui nous parvenait du Moyen-Orient, justement, de l'Égypte en particulier. J'aurais également voulu vous mentionner cette nouvelle, toujours à propos de l'Afrique, qui annonçait le déploiement prochain de soldats canadiens en Afrique. Un général d'état-major des forces canadiennes aujourd'hui a indiqué que des troupes seront bientôt déployées en Afrique et des sources indiquent que le Canada pourrait envoyer des casques bleus canadiens donc au Mali pour lutter contre le terrorisme sur le continent africain. Donc, un dossier à suivre. On en saura plus, sans doute, au cours des prochaines semaines. On va retourner en musique. Et bien sûr, il est toujours question de cet agenda culturel très rempli qu'on vous promet pour ce soir. On sait qu'à St. Daniel Square, ce soir, il y a un spectacle qui est co-organisé par la Société francophone de Victoria et l'organisme Eventide. L'un des artistes qui sera sur scène ce soir à St. Daniel Square, ça s'appelle Emily and Ogden. C'est une formation bilingue, franco-anglo. Je vous laisse écouter une petite pièce de leur part, qui s'intitule Style. Et on va bientôt retrouver Tim dans quelques minutes, qui va nous parler de cette formation et de la formation The Thing, notamment, entre autres, à propos de la soirée de ce soir, 14 juillet. On écoute ça tout de suite.
Midnight. You come and pick me up, no headlights.
Aurait peut-être reconnu, c'est une reprise d'une chanson de Taylor Swift que nous proposait Emily Ann Ogden à l'instant dans le débrief. Emily Ann Ogden qui sera ce soir sur Centennial Square dans le cadre d'une soirée co-organisée par Eventide et la Société francophone de Victoria. Donc, il y a un programme chargé ce soir. Vous pouvez commencer par l'hôtel Parkside vers les 17h où se tiendra le 5 à 7 de l'Alliance française. C'est au 810 Humboldt Street. 5 à 7, donc entrée de $20. Il y aura un bar, des hors-d'œuvre, de la musique. Et par la suite, vous pouvez vous transporter du côté de Centennial Square pour assister à la soirée qu'ont prévu Eventide en collaboration avec la Société francophone de Victoria. Donc, on va écouter dans quelques instants cette entrevue, cette chronique que m'a accordée Tim Dubreuil. Hier, il est passé à nos studios pour nous parler de la soirée de ce soir, justement. On écoute ça dans quelques instants. Alors, on est de retour dans le débrief, votre rendez-vous de fin de journée en information à l'antenne de CILS FM 107,9. Je suis en compagnie de Tim Dubreuil qui nous rend visite occasionnellement pour nous parler de la scène musicale de Victoria. Il y a toujours des concerts intéressants un peu partout autour de Victoria. Bonjour Tim.
Bonjour, ça va bien?
Ça va très bien, merci d'être à l'émission. Alors, on est aujourd'hui le 14 juillet, fête nationale des Français, Bastille Day, comme on l'appelle en Amérique du Nord. On a un programme très chargé pour ceux qui veulent sortir ce soir et entendre la musique francophone dans un premier temps et ensuite avec des petites options anglophones très intéressantes sur Victoria. Donc, Tim, est-ce qu'on peut commencer par le commencement, justement?
Oui. Pour commencer, on a trois bandes géniales. C'est parti d'une série gratuite, Eventide.
Oui.
Presque toutes les choses sont complètement gratuites.
Oui.
C'est tout en centre-ville d'ici à Victoria.
Oui, durant l'été.
Oui, jusqu'à septembre 1, je pense.
Oui.
Il y a trois bandes. Les Noix Gitanes.
Oui. Les Noix Gitanes.
Noix Gitanes, pardon. C'est un peu Nord-Afrique.
Oui.
C'est un peu flamenco, un peu d'Espagne et un peu Balkan. C'est génial. On peut danser un peu.
Oui.
Well, si on veut danser.
Il va faire beau et chaud ce soir. Donc, je pense qu'il y a des gens qui vont danser, effectivement.
Oui. Well, chaud pour Victoria.
Ouais, c'est sûr chaud. Je sais pas, c'est pas Toronto ni Montréal avec l'humidité et tout.
C'est ça.
Super, donc les Noces Gitanes, Eventide, co-organisé, co-produit avec la Société francophone de Victoria, donc spécialement pour le Bastille Day. Mm-hmm. Mais les Noces Gitanes ne seront pas les seuls, ils seront accompagnés d'autres groupes à Centennial Square.
Oui, oui, deux autres, Emily and Ogden, puis Pascal Goodrich Black.
Oui.
Moi, je suis un fan de Emily Ogden. Emily Ogden, c'est comme c'est un trio.
D'accord.
Avec une harpe classique.
Oui.
Avec une guitare guitare basse, guitare double basse, guitare puis à batterie.
D'accord.
Une voix un peu comme Feist.
Oui.
Et un peu comme évidemment Joanna Newsom qui joue aussi l'harpe classique.
D'accord.
Il fait beaucoup de chansons de les pop stars comme Taylor Swift,
okay.
Mais avec des versions vraiment sensitives et vraiment ouais. Bon.
Est-ce qu'ils ont le droit de reprendre ces succès ouais. De les mettre dans leurs albums ou
Taylor Swift appartient à tout le monde.
Ah d'accord. C'est
oui, c'est ça. Et, non, puis c'est... l'album 1984 ouais. De Taylor Swift, dans mon opinion, c'est une classique moderne de pop. Honnêtement, mais en tout cas...
Ma copine serait d'accord avec toi, à 100%.
Oui, 100 000%.
Oui.
1000%. Mais Emily Ogden fait les interprétations sensitives. Sa voix, c'est réel.
Ouais.
So c'est vraiment sensitif, c'est bon. Mais il y a aussi des compositions.
D'accord.
Il y a aussi. So c'est une bande bilingue.
Oh.
Chante en français et anglais. Parle en français et anglais.
D'accord.
Joue en Paris beaucoup.
Oui. Donc elle est connue internationalement.
Oui, en France beaucoup.
Bon.
Oui. Et Pascal Goodrich Black, c'est la première fois que j'ai déjà entendu.
Oui.
Mais c'est du bon musique acoustique.
Oui.
Yeah,
elle a été très généreuse avec nous, Pascal, lors du festival francophone de Victoria en mai dernier. Elle s'était produite sur scène à Centennial Square justement durant le week-end et elle nous avait rendu visite à la tente de CILS. Et elle nous avait accordé une longue entrevue. Pascal Goodrich Black, donc, qui sera également présente lors de cette soirée de ce soir. Donc, à ne pas manquer, vous avez un 3 pour 1 gratuit à Centennial Square, co-organisé par Eventide et la Société francophone de Victoria. Autrement, plus tard dans la soirée, il y a d'autres options fort intéressantes. Si j'en crois ce que tu m'as teasé tout à l'heure, Tim.
Oui. Après ça, le Copper Owl.
Oui.
Il y a...
sur Douglas.
Oui, sur Douglas. Juste à l'autre côté. Non, c'est dans Paul's Modern. So
oui.
Juste là. Puis, il y a trois bands. Mouth Breather, Wide Eyed, puis Dry Williams. Mouth Breather en particulier, c'est une band comme Dream Pop un peu.
So d'accord.
Dream Pop, c'est la musique éthérale, un peu programmée.
Oui.
Mais avec beaucoup d'influence pop.
Oui.
So, il y a une band comme Miami Nights, ici, de Victoria. Puis Mouth Breather est un peu comme ça. So on va entendre une chanson de Mouth Breather.
Oui.
C'est Shrug. So c'est,
oui, c'est une chanson qu'on a jouée un petit peu plus tôt dans oui. L'émission. Si vous étiez à l'écoute, on l'a passée un petit peu plus tôt dans l'émission.
Oui. So c'est, je pense que c'est 10$. Mais checkez le Facebook
oui.
De le Copper Owl pour... je pense que là, c'est 9h, ben je pense que c'est changé. Je pense
d'accord.
Que c'est peut-être à 10h.
So 10h.
Je check sur Facebook avant.
OK, donc ça laisse le temps d'aller à Centennial Square, d'aller manger quelque chose et puis de se rendre au Copper Owl un petit peu plus tard. Super. Est-ce que ça risque d'être complet? Est-ce que il faut se présenter le plus tôt possible?
Oui, je pense, oui? Je pense que oui. C'est pas sold out, mais c'est proche même.
OK, donc Mouth Breather chez Copper Owl ce soir à ne pas manquer. Et on a une autre option encore pour les mélomanes de Victoria. Est-ce que ce serait par hasard The Thing?
Oui, well, The Thing a joué ici pendant le festival de jazz.
Ah, ok, oui, c'est un concert qui a eu lieu, d'accord.
Oui, mais c'est juste une vraie... Okay, pour moi, c'était un concert comme... transcendantal.
Oui.
Mémorable. C'est une band danois, un trio
oui.
de jazz heavy.
Oui.
OK. C'est juste un vraiment, vraiment bon exemple de la diverses options qu'on a pour la musique ici. C'était pendant le Festival Jazz, mais c'était pas parti le Festival Jazz.
C'est ça. Oh, donc, c'est, ça illustre la richesse de la scène de Victoria. On a même un off informel de jazz avec des options incroyables.
Ouais, incroyable. C'est une band qu'il y a peut-être une cinquaine d'albums. Leur nouveau album, Chic, est super. C'est heavy, mais pas comme like, heavy metal. Tu sais, mais c'est
non.
Comme, c'est jazz lourd. Heavy. Ouais. C'est ça. C'est lourd avec une sax baritone, basse, puis batterie. Et, mais c'est comme... C'est trois gars, mais c'est comme 10 gars.
C'est un peu comme ta voix.
Peut-être.
C'est, alors, on a entendu une pièce de cette formation un petit peu plus tôt dans l'émission de Nail Will Burn. C'est bien ça? Est-ce que je me suis...
Oui, c'est ça.
C'est ça. On a écouté cette pièce un petit peu plus tôt. Donc, vous voyez exactement de quoi on parle en référant donc à un style heavy. Autrement, est-ce qu'il nous reste encore un peu de temps? Oui, je crois que oui. On voulait dire quelques mots sur les improbables et très divertissants Insane Clown Posse, une formation, je crois, de Detroit, si je ne me trompe pas.
C'est Detroit, mais ils appartiennent à toutes les États-Unis, le monde peut-être.
C'est ça. Yeah. Ils sont incroyablement populaires. la chanson que tu m'as montrée tout à l'heure a 14 millions de vues sur YouTube. Mm-hmm. Donc, de façon totalement inattendue, ils sont de passage à Victoria. Est-ce qu'on peut dire ça? C'est étonnant de les voir à Victoria?
Oh, ça dépend.
Ça dépend, oui.
Parce que,
quand même, on est une grosse ville. On n'est pas si petit que ça.
OK, ouais, c'est c'est dimanche à District.
Oui.
Et leurs shows sont, surreal un peu.
Oui.
Surréal un peu. Les fans ICP sont dédiqués.
Ouais.
Comme dédiqués.
Ils sont mordus, totalement.
Totalement.
So, et il faut les décrire un peu. Ils ont un costume de clown, comme le suggère leur nom.
Yeah. C'est toujours.
C'est ça, c'est permanent.
Ouais, c'est presque permanent.
Wow.
Ouais, c'est presque une tattoo sur leur visage.
Et donc, c'est du rap, qui ne se soucie pas des bonnes manières,
du
PC. Il y a des écarts de conduite, il y a des dérapages fréquents, mais ils ont quand même pas mal de talent, il faut leur donner ça.
Well, il y a pas mal de flow.
Oui, c'est
comme, ça. Comme rappeur, il y a flow comme... Leur flow est vraiment bon. La musique, c'est mémorable. C'est catchy.
Oui.
Un peu. Leur parole est drôle.
Oui.
Et drôle, pas dans une façon...
De façon slapstick, c'est quand même assez
c'est vrai,
intelligent.
C'est leur réalité.
Ouais.
Donc, il dit des choses comme « magnets ». How do they work? Et on sait.
Pose des questions vraiment d'apparence stupide, mais finalement qu'ils réussissent à nous faire rire avec leurs paroles.
Ouais.
Donc ils vont être à Victoria dimanche, c'est ça?
Oui, c'est dimanche à District Nightclub.
Ouais.
Je pense que c'est une vingtaine de dollars, mais c'est sur leur site web.
OK, donc tu disais qu'ils ont des adeptes, des fans qui sont vraiment passionnés. Est-ce que ça risque d'être complet?
Ah oui.
Oui, OK.
Absolument.
Donc
c'est complet.
On est le 14 juillet au moment où on se parle, donc on encourage les gens à aller sur le site de District peut-être?
Oui, le site de District.
Ouais, le plus tôt possible pour réserver leur place pour ce moment de divertissement et de folie musicale en compagnie de Insane Clown Posse.
Ouais.
Est-ce que on a fait le tour? Est-ce qu'il y a encore des petites choses à signaler?
Non, une petite chose que Rock the Shores commence bientôt.
Oui. Qu'est-ce que c'est Rock the Shores?
Gros festival. Il y a Metric, City and Color. Ça commence le 22 jusqu'à le 25.
OK.
Il y a des billets. On peut faire de camping. On peut faire juste deux journées. On peut faire toutes trois journées. C'est probablement après Riffland, il y a le plus gros festival de rock ici à Victoria dans l'environnement.
Ben, ça serait le fun qu'on fasse un segment vraiment spécifiquement là-dessus.
Oui.
Ben, Tim Dubreuil, un grand merci d'être passé à l'émission avec toutes ces possibilités musicales sur Victoria ce soir et dimanche. À bientôt.
À bientôt.
We got a theory. You see, Mike, we got a theory about magic and miracles.
That's right. That's right.
If magic is all we've ever known, then it's easy to miss what really goes on. But I've seen miracles in every way, and I see miracles every day. Oceans spanning beyond my sight, and a million stars way above them at night. You don't have to be high to look in the sky and know that's a miracle, open wide. Look at the mountains, trees, the seven seas, and everything chilling underwater. Please, hot lava, snow, rain and fog, long-necked giraffes and pet cats and dogs. And I've seen 85,000 people all in one room together as equal. Pure magic is the birth of my kids. I seen shit that'll shock your eyelids. The sun and the moon and even Mars. The Milky Way of fucking shooting stars. UFOs, a river flows. Plant a little seed and nature grows. Niagara Falls and the pyramids. Everything you believed in as kids. Fucking rainbows. After it rains, there's enough miracles here to blow your brains. I fed a fish to a pelican at Frisco Bay. It tried to eat my cell phone. He ran away. And music is magic, pure and clean. You can feel it and hear it, but it can't be seen. It can't be seen. Music is all magic. You can't even hold it.
Do you notice and recognize miracles?
It's just there in the air.
Are you a believer in miracles?
Pure motherfucking magic. Right? This shit'll blow your motherfucking mind. Music is a lot like love. It's all a feeling, and it fills the room from the floor to the ceiling. I see miracles all around me. Stop and look around, it's all astounding. Water, fire, air, and dirt. Fucking magnets, how do they work? And I don't wanna talk to a scientist. Y'all motherfuckers lying and getting me pissed. Solar eclipse and vicious weather. 15,000 juggalos together. And I love my mom for giving me this time on this planet. Take nothing for granted. I seen a caterpillar turn into a butterfly. Miracles ain't nothing to lie. Shaggy's little boys look just like Shaggy. And my little boy looks just like Daddy. Miracles each and everywhere you look. And nobody has to stay where they...
Instant Clown, passé dans le débrief. Merci à Tim Dubreuil pour sa chronique culturelle. On espère revoir Tim prochainement avec d'autres options de sortie sur Victoria. On va enchaîner dans l'émission. Il nous reste environ un quart d'heure. Alexis Gagnon avec vous jusqu'à 17h. On va examiner la revue de presse. On a permuté l'agenda culturel et la revue de presse dans l'émission. Donc c'est le moment d'aborder la revue de presse. On commence avec un article paru sur Mediapart. Ça concerne le Brexit. Le Brexit revient particulièrement souvent dans l'émission ces derniers temps. Faut dire qu'il y a eu de nombreux rebondissements depuis le référendum du 23 juin en Grande-Bretagne. Cette fois, c'est un texte qui fait un petit peu le bilan de la campagne référendaire qui a précédé le référendum du Brexit du 23 juin. C'est un texte qui est paru sur Mediapart et c'est repris d'un blog qui s'appelle memorial98.org. La nomination de Theresa May comme nouvelle chef du gouvernement britannique constitue un symbole de la situation créée par la campagne du Brexit et ses conséquences. Celle qui a été 6 années d'affilée au poste de ministre de l'Intérieur a déjà annoncé qu'elle allait réduire drastiquement le nombre de visas d'entrée au Royaume-Uni. Elle veut aussi remettre en cause la Convention européenne des droits de l'homme qui offre des garanties aux migrants. Elle poursuit ainsi la ligne qu'elle avait mis en œuvre dans son ministère de l'Intérieur sous Cameron au cours des années précédentes. Nigel Farage, pour sa part, le chef du parti d'extrême droite UKIP, a donc pu se retirer avec la satisfaction d'avoir gagné. Il a réussi à diffuser le poison du racisme dans de nombreux secteurs de la société britannique et à renforcer la xénophobie organisée dans toute l'Europe, déplore ce blog paru sur Mediapart.fr. C'est intitulé « Les fruits amers d'une campagne raciste ». Je vous invite à le consulter. C'est tiré d'un blog qui s'intitule « Memorial 98.org et donc ça revient sur les incidents qui ont jalonné la campagne référendaire et l'auteur exprime une certaine inquiétude sur par rapport à la pente qu'ont emprunté et sur laquelle glissent les politiques britanniques, une pente qui les mène à l'intolérance et qui inspire d'autres mouvements d'extrême droite en Europe qui ont repris en cœur le refrain justement de la xénophobie un peu partout, à commencer par le Front National en France. Donc un texte à lire sur le site de Mediapart.fr. Ça s'intitule « Les fruits amers d'une campagne raciste ». Autrement, je désirais vous signaler qu'il y a une nouvelle édition du Monde diplomatique qui a été publiée il y a quelques jours. Donc, c'est le numéro de juillet du Monde diplomatique. Il y a un billet sur le Parti socialiste français. Nous sommes le 14 juillet, donc profitons-en pour vous citer le bilan que propose le Monde diplomatique dans cet article, bilan du Parti socialiste de François Hollande et de son premier ministre Manuel Valls. Subjugué par les dogmes du soi-disant marché libre et rivé aux consignes de Bruxelles, le président François Hollande s'obstine à imposer le démantèlement du code du travail, faute de lutter efficacement contre le chômage, comme une majorité de syndicats, de Français et de parlementaires rechigne. Il tente un passage en force au mépris même de toute logique électorale. Donc évidemment, en sous-jacent dans cette amorce du texte, l'auteur renvoie au débat sur la déchéance de nationalité et à la loi travail, qui ont suscité une contestation sociale très forte, qui continue actuellement. L'auteur écrit: pour le Parti socialiste français, l'heure du bilan approche. Rarement un parti a été aussi rapidement abîmé par son passage aux affaires. En 2012, il tenait l'ensemble des pouvoirs entre ses mains. 4 ans plus tard, il a perdu un nombre considérable d'élus et à moins d'un an de l'élection présidentielle, la cause paraît entendue. François Hollande, qui se prépare à l'évidence à solliciter le renouvellement de son mandat, n'est même pas assuré de figurer au second tour. L'impopularité du président, comme celle de son premier ministre, bat des records historiques. Et mentionnons en marge que le président doit composer avec des adversaires qui viennent de son propre camp. On a appris ces jours-ci qu'Emmanuel Macron, qui est un ministre de Manuel Valls, désirait se lancer dans la course à la présidentielle. Donc, c'est pas gagné pour la réélection de François Hollande. Donc, je vous recommande ce billet paru dans Le Monde diplomatique il y a quelques jours. Autrement, toujours dans cette édition de juillet, on cite la Grèce dans un papier qui est intitulé tout simplement « Grande braderie en Grèce ». On sait que la Grèce a connu beaucoup de vicissitudes, beaucoup de difficultés depuis le début des années 2000. On peut remonter même aux Jeux olympiques de 2004. La Grèce qui a été mise au pas par l'Europe et qui vit dans un état de précarité depuis. Alors, je vous cite quelques passages de ce texte paru sur Le Monde diplomatique de juillet. Le revolver sur la tempe, Athènes a capitulé devant les exigences de ses partenaires, et il y a des guillemets à partenaires, européens. En juillet 2015, les décisions budgétaires et fiscales du pays sont désormais soumises à leur accord préalable. Donc, la Grèce, on le sait, est sous tutelle européenne, et le programme de privatisation imposé à la Grèce orchestre le plus important transfert de propriété jamais opéré dans un pays de l'Union européenne, d'où le titre « Grande braderie ». En Grèce. C'est sur le portail du Monde diplomatique, et le Monde, comme toujours, est très généreux, même pour les non-abonnés. Ceux-ci, faute d'abonnement, peuvent tout de même consulter jusqu'à 30%, environ un tiers de l'article. C'est très édifiant, c'est très instructif. Je vous recommande d'aller faire un petit tour du côté du portail du Monde diplomatique. Autrement, du côté de Mediapart.fr, il y a un excellent entretien accordé par Mohamed Tozzi. Ça concerne l'islamisation et les mouvements islamistes en général. Par extension, le terrorisme, bien sûr. Il s'exprime donc dans cet entretien paru sur Mediapart.fr sur le terrorisme au Maghreb, au Maroc et dans le monde. Il est l'auteur d'un ouvrage de référence, Monarchie et Islam politique au Maroc. C'est un ouvrage qui avait été publié il y a une quinzaine d'années et qui a fait date. Et plus récemment, il a contribué à un ouvrage intitulé L'État d'injustice au Maghreb. C'est paru aux éditions Cartala en 2015. Je vous cite quelques petits passages de son intervention sur le site de Mediapart. Le djihadisme, celui d'Al-Qaïda et beaucoup plus tard celui de Daesh, est le résultat objectif d'un certain nombre de politiques au niveau international, l'institutionnalisation de la violence dans le règlement d'un certain nombre de conflits géopolitiques, du premier conflit en Afghanistan et de la lutte contre le bloc soviétique via le djihadisme dans les années 80 jusqu'à l'invasion de l'Irak pour de fausses justifications en 2003. Donc, puis les erreurs monumentales de communautarisation de la société irakienne, la démobilisation de l'armée irakienne comme si elle allait disparaître par enchantement. Donc là, l'auteur... l'interviewé, devrais-je dire, Mohamed Tozzi, cite un petit peu le paysage qui a contribué à l'avènement de l'État islamique. Les États sont débordés, dit-il, par ce qu'ils ont créé. Tous les États ont eu la tentation d'utiliser ces outils dans leur politique internationale, à savoir d'utiliser l'islamisme, que ce soit les États-Unis, l'Union soviétique, etc. Le djihadisme, tout le monde a la tentation de l'utiliser. L'Iran avec le Hezbollah ou même Israël en encourageant les islamistes au détriment du Fatah. L'Algérie en jouant avec cela pour la conquête d'espace au sein du bloc du pouvoir en interne, les services secrets syriens dans leur jeu interne, l'Arabie saoudite, tous les États ont joué à financer à un moment ou un autre les djihadistes. On ne peut pas dire que ces mouvements sont des créations ex nihilo, avertit-il dans cet entretien paru sur le site de Mediapart.fr. Question de l'équipe éditoriale de Mediapart. Certains analystes redoutent un retour à la clandestinité de Daesh après la victoire militaire. Qu'en pensez-vous? C'est un peu provocateur, mais je pense que le monde gagnerait à négocier avec l'État islamique et à les traiter en État avec des responsabilités plutôt que de risquer de les pousser à accéder au statut d'une franchise incontrôlable. Ils ne sont pas pires par certains côtés que l'Arabie saoudite. Ils sont pires parce qu'ils n'ont pas de reconnaissance. Le démantèlement de Daesh ne va pas mettre fin à Daesh. L'idée survivra. Quel est le rôle, demande Mediapart, du déficit démocratique dans cette progression de l'islam radical dans le monde? Réponse de l'interviewé, je rappelle, Mohamed Tozzi, un spécialiste des questions entourant l'islam radical, pardon. Donc, quel est le rôle du déficit démocratique dans la progression de l'islam radical? Réponse, le parti pris des États pour le conservatisme joue un rôle, c'est très paradoxal, cela rend l'exercice démocratique très difficile et neutralise les évolutions vers la démocratisation. Les acteurs qui sont eux-mêmes censés être les plus engagés dans le jeu démocratique l'appréhendent et souvent préfèrent des positions de protéger de régimes autoritaires plutôt que de prendre le risque de jouer franchement la carte d'une démocratisation. Les sociétés étant très conservatrices, les forces démocratiques n'arrivent pas à prendre le risque de jouer franchement la démocratie. On l'a vu avec Sisi en Égypte, avec Sisi en Tunisie. avec le retour des gens... pardon, on l'a vu avec Sissi en Égypte, en Tunisie avec le retour des gens du RCD, au Maroc également et en Turquie avec Erdogan. Donc, je vous recommande cet entretien accordé par Mohamed Tozzi dans les pages du média indépendant Mediapart.fr. C'est un entretien qui a été mené par le journaliste Ilem Rachidi. Autrement, évidemment, je vous le disais en début d'émission, un attentat terroriste est venu assombrir les festivités du 14 juillet en France et c'est assez terrible. Malheureusement, le dernier bilan fait état d'au moins 70 morts. C'est sur le site de TF1 actuellement. Je viens de rafraîchir la page du site d'information lci.tf1.fr. Donc, ce sera dans l'actualité au cours des prochains jours. On en reparlera en début de semaine dans le débrief, assurément. Donc, en attendant, on peut se rendre sur les sites d'information pour consulter les dernières dépêches à ce sujet. 16h57, on va clôturer le débrief dans quelques instants. Merci d'avoir été à l'écoute. On se verra peut-être en personne à Centennial Square tout à l'heure à l'occasion du concert co-organisé par Eventide et la Société francophone de Victoria. Autrement, je souhaite à tous une excellente soirée et un excellent week-end. À très bientôt.